Bonjour à tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Une heure pour décrypter les temps forts de l'actualité de la semaine en compagnie de nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la sociologue Dominique Schnapper, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, le journaliste et essayiste Gérard Courtois et l'homme qui dessine l'actualité, Plantu, nous rend visite aujourd'hui. Bienvenue.
Bonjour.
Au sommaire de nos échanges, les experts du GIEC font connaître un nouveau scénario du pire pour le climat, une expertise scientifique et politique. Et puis en invitant lundi soir les parlementaires LREM à regarder en face le sujet de l'immigration, Emmanuel Macron suscite le malaise au sein de l'aile gauche de sa majorité. Immigration, un débat de circonstances, électoral ou fondamental ? Mardi 17 septembre, des scientifiques français ont donc présenté de nouvelles simulations climatiques. Une centaine de chercheurs et d'ingénieurs ont participé à ces travaux et à la création de deux modèles distincts. Dans le pire des scénarios considérés, la hausse de température moyenne globale atteint 6,5 à 7 degrés en 2100. Ce scénario du pire reposant sur une croissance économique rapide, alimentée par des énergies fossiles. Les experts du GIEC ont également présenté un scénario plus optimiste, reposant lui sur une forte coopération internationale et donnant priorité au développement durable, ce qui permettrait de rester sous l'objectif des 2 degrés de réchauffement, mais tout juste, précise le rapport, et à condition d'acter une diminution immédiate des émissions de CO2 jusqu'à atteindre la neutralité carbone à l'échelle de la planète vers 2060. Un scénario optimiste qui impliquerait également une captation de CO2 atmosphérique de l'ordre de 10 à 15 milliards de tonnes par an en 2100, ce que la technologie ne permet pas de faire pour l'instant. Alors on se souvenait de ces propos du militant écologiste José Bové déclarant l'été dernier « Le GIEC s'époumonne à alerter et les gouvernements font du business as usual ». Alors le GIEC, lanceur d'alerte criant dans le désert ou instance d'expertise jouant un rôle à la lisière entre science et politique.
My name is Greta Thunberg.
Mon nom est Greta Thunberg.
I have not come to offer any
prepared. Je ne suis pas venue pour faire des déclarations préparées.
I'm instead attaching my testimony.
J'ai apporté ici le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique d'1,5 degré Celsius, rapport qui est sorti le 8 octobre 2018.
On October 8, 2018. I am submitting this report.
Je vous soumets ce rapport en guise de témoignage, parce que je ne veux pas que vous m'écoutiez moi. Je veux que vous écoutiez les scientifiques, et je veux que vous vous unissiez derrière la science. Et ensuite, je veux que vous agissiez réellement. Merci.
Greta Thunberg, mercredi devant le Congrès américain, juste avant les nombreuses marches pour le climat qui se sont tenues en France et dans le monde ce week-end. Plantu, Greta Thunberg, pour vous, c'est le petit chaperon vert.
Oui, je l'ai dessiné comme ça, parce que comme elle a pris son bateau, elle a traversé l'Atlantique, je me suis dit, tiens, elle a des choses à dire, alors c'est... Je pensais à une petite fille qui se balade comme ça dans une forêt. Alors du coup, je me suis dit, j'enlevais les arbres et puis je vais mettre des cheminées d'usine. Et puis après, je vais mettre un loup. Et puis, j'ai commencé à la dessiner parce qu'elle est plutôt sympa à dessiner parce qu'elle elle fait un peu la gueule quand même, souvent, même si elle a 16 ans. Et elle montre du doigt. C'est marrant, j'ai vu une couverture d'un journal et elle montre un doigt accusateur vers le lecteur. Et je trouve que ça la définit un peu. Et à la fois, son combat, c'est le combat des jeunes. En tout cas, les jeunes y adhèrent. Alors certains ont envie de se moquer d'elle et de la traiter de petit perroquet. Je trouve que il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut accompagner ce mouvement des jeunes, être amusé, être critique, dire après tout c'est une enfant. Et à la fois, elle dit quand même des choses qui représentent le langage des jeunes d'aujourd'hui.
Et elle est venue donc devant le Congrès américain avec le rapport du GIEC sous le bras. Hubert Védrine, le GIEC s'époumonne à alerter et les gouvernements font du business as usual. Je reprenais les termes de José Bové. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut voir les choses ?
Non. Non, parce que c'est les gens qui résistent. C'est pas les gouvernements. D'ailleurs, dans tous les espaces démocratiques, il y a de moins en moins de leaders, il y a des followers. Ils ont la pression de l'opinion permanente, les sondages, les réseaux sociaux, l'information continue, etc. Il y a de moins en moins de marge de manœuvre. presque tous les gouvernements, à part le cas particulier de Trump qui ne représente pas l'Amérique, voudraient changer plus vite. Mais changer plus vite, c'est d'abord faire des percées technologiques, avoir le courage de garder le nucléaire, voire de l'augmenter. Je mesure le poids de ces mots, mais aussi longtemps qu'on n'aura pas un vrai solaire complètement compétitif, avec des vrais systèmes de batterie qui puissent garder l'énergie ainsi captée pendant des mois et des mois. Mais il semblerait que les Chinois soient très en avance sur nous, là-dessus, sur ce point. Donc ça, c'est tout à fait important. Donc c'est pas les gouvernements en tant que tels qui s'époumonnent, qui se rassemblent, qui font des déclarations, qui ont du mal à faire appliquer.
Sachant que le GIEC, c'est 195 gouvernements qui participent à cette instance.
Non, mais c'est des experts quand même. C'est des experts, alors ils se disputent entre eux, oui, beaucoup d'experts.
Qui supervisent.
Beaucoup d'entre eux les trouvent le GIEC trop intégriste, mais enfin bon, ils sont globalement utiles. Et tous les, moi je me moque pas d'elle, mais ça sert pas à grand chose parce qu'elle fait ça dans des pays où l'opinion est a priori favorable, les jeunes sont forcément favorables. Il faut faire qu'elle fasse ses marches en Inde, en Chine, et qu'elle pousse la Pologne et l'Allemagne à sortir du charbon. Ils auraient mieux fait de poser la question de la sortie du charbon il y a 20 ans, au lieu de sortir prématurément du nucléaire pour des raisons de démagogie électorale. Bon, et puis il y a derrière une gigantesque métamorphose industrielle, technologique, scientifique qui est en cours. Je ne sais pas si ça ira assez vite. Il n'y a pas la question du climat, il y a la question de la... Bon, bref, il faut être très très conscient, très lucide, pas forcément alarmiste, parce que si on arrive à la panique, comme certains écolos, les gens disent bah, « c'est foutu alors, donc on fait rien », alors qu'il y a mille choses à faire.
Alors on va y revenir à ces solutions, mais on avait envie de prendre comme point de départ cette instance, le GIEC, Dominique Schnapper, qui nous rappelle à l'ordre régulièrement avec ses rapports, toujours chaque fois plus alarmistes, même s'il y a souvent, comme je l'ai indiqué à l'instant, plusieurs scénarios ou scénarii. Pour vous, c'est quoi le GIEC, Dominique Schnapper? C'est un lanceur d'alerte qui crie dans le désert ou c'est une instance qui, en effet, joue un rôle toujours à la lisière entre l'expertise scientifique et la politique?
C'est ce que j'en pense n'est pas important, mais enfin il faut savoir quand même que ce qu'est le GIEC. Vous avez parlé de quelques centaines de scientifiques. Non, c'est pas quelques centaines, c'est des milliers de scientifiques répartis à travers le monde. C'est une commande de l'ONU, donc ça ne dépend pas
de la partie française en l'occurrence, puisque oui, là c'est la partie française du rapport.
C'est la partie française qui traduit
cette semaine,
qui traduit le projet général du GIEC, et c'est ce projet transnational qui en tant que tel est intéressant. Et donc il y a une commande qui est par l'ONU. Les scientifiques sont tout à fait libres de reformuler la commande de l'ONU en termes scientifiques. Et il y a une collaboration pendant plusieurs années entre des milliers de scientifiques et ils aboutissent à l'état de la science sur la question. Ensuite, évidemment, ça dépend des politiques d'en tirer des conclusions. C'est pas leur rôle, mais leur rôle, et je trouve que c'est une sorte de réussite parce que ils ont effectivement alerté sur un certain nombre de problèmes, des problèmes qui existent objectivement. Alors moi, j'aimerais qu'on sorte du problème de Greta. Moi, tout Greta, si je puis dire, me donne un sentiment de malaise un peu par tous les bouts.
Pour quelle raison ?
Parce qu'on comprend pas très bien, parce que elle est un curieux personnage, parce que elle est certainement utilisée et qu'on ne sait pas ni très bien comment.
Pourquoi est-ce qu'elle est forcément utilisée ?
Parce qu'elle est jeune, parce que il faut qu'elle représente quelque chose de communication sur un sujet qui devrait.
On peut pas être jeune et libre.
Non, on ne peut pas être jeune et en savoir autant que les savants du GIEC. Je sais que je suis réactionnaire, mais je pense que les savants du GIEC en savent plus que Greta. Donc ça me laisse un certain malaise, sans que j'aie les sentiments vifs qu'elle provoque et que je trouve assez déplaisants. Mais peu importe, c'est pas le problème de Greta, c'est le problème de ce que le GIEC peut apporter et de la façon dont les politiques peuvent tirer ou ne pas tirer des conclusions politiques de ces connaissances scientifiques. Alors il y a eu un savant qui a dit, si on voulait être absolument démonstratif, il faudrait avoir deux terres, une terre dans laquelle on prend un certain nombre de dispositions politiques et une terre dans laquelle on les prend pas, et puis on comparerait. Or quand vous regardez les rapports du GIEC par rapport à ce qui s'est passé ensuite réellement, vous voyez qu'ils sont toujours en dessous de ce qui s'est passé réellement. Parce qu'ils sont très prudents.
Régulièrement, Jean Jouzel, on ne sait jamais tromper.
C'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a une confirmation par les faits. Ils ont toujours été en dessous de ce qui s'est passé réellement. Et par conséquent, il faut les écouter. Et j'aimerais mieux qu'on écoute les gens du GIEC qui présentent les résultats scientifiques les plus scientifiques possibles, c'est tout, c'est pas une vérité absolue. Mais c'est tout de même plus important que les discours de Greta. Donc sortant du problème de Greta et essayons d'accepter ce que les scientifiques nous disent, d'autant plus que la France a été tout de même le pays, c'est la seule académie des sciences qui n'a pas nettement pris parti pour les résultats du GIEC à cause de l'influence de M. Allègre, alors que les Américains, l'Académie des sciences américaine et anglaise, appuyaient les scientifiques. Or, leurs prévisions sont mises à l'épreuve de la réalité et elles sont extrêmement convaincantes.
Qu'est-ce que c'est le GIEC pour vous, Gérard Courtois? Est-ce que c'est notre mauvaise conscience d'époque qui ressurgit régulièrement pour stimuler, pour piquer les responsables politiques?
Non, Dominique Schnapper vient de le dire, c'est une assemblée de scientifiques qui ausculte un problème depuis longtemps, de manière sérieuse, de manière validée au fil des années, on vient de le dire, et qui ont provoqué, je pense, petite parenthèse, Mademoiselle Thunberg, qu'est-ce qu'elle dit à tous les responsables politiques? Écoutez les scientifiques.
Le GIEC. Et encore une fois, elle est arrivée avec le rapport sous le bras.
Et donc je pense que ce travail scientifique a réellement provoqué, enclenché une révolution culturelle. C'est un grand mot, mais en tout cas un changement de mentalité. Et pas sur des choses, des menaces lointaines à horizon de 2100. Sur des problèmes concrets, immédiats, qui touchent la vie des gens, l'alimentation, la biodiversité, l'isolation thermique des logements, etc., etc. Donc, tout ça est maintenant rentré dans les esprits, dans les têtes, et rentré du même coup dans les stratégies politiques. On le voit partout, on l'a vu aux européennes, tout le monde était vert, ou il y avait du vert partout, en tout cas. Les verts eux-mêmes ont fait un score, sinon mirifique, du moins honorable. Et depuis des mois, et en particulier depuis les élections européennes, il est évident que et le président de la République et le gouvernement ont sensiblement changé de ton. Alors après, on va voir ce que ça donne. Mais M. Macron, qui a d'ailleurs invité en février, de mémoire, Greta Thunberg à l'Élysée, et qui est pas du tout insensible à l'écho que cette croisade, entre guillemets, a auprès des jeunes, ne cesse d'invoquer désormais l'urgence climatique, d'en faire de la mettre au cœur de toutes les politiques publiques, ou de vouloir la mettre au cœur de toutes les politiques publiques, françaises, européennes, voire mondiales. Dans son discours de politique générale au mois de juin, le Premier ministre a consacré un long quart d'heure en ouverture de sa déclaration à ces questions-là, et Dieu sait que ça n'est pas un Khmer vert, hein, Monsieur Philippe. Et voilà, en disant il faut accélérer le mouvement, il faut avancer plus vite, il faut trouver des réponses et des solutions concrètes. Toute la question, tout le monde le dit et tout le monde s'interroge, est de savoir comment on passe de la parole aux actes, comment on transforme cette volonté, à la fois qui est avérée par les scientifiques ou qui est démontrée par les scientifiques, comment on transforme ça en politique publique. Moi, je m'en tiendrai à ce stade à juste une remarque sur les motifs qu'avait invoqué Nicolas Hulot lors de sa démission. On sait que c'était un coup réussi, entre guillemets, symbolique d'Emmanuel Macron au lendemain de sa victoire, d'enrôler ou d'engager dans son équipe Nicolas Hulot, écologiste numéro un en France, comme chacun sait. Hulot avait dit, je passe sur d'autres motifs de récrimination de sa part, mais il avait dit deux choses essentielles. Un, la politique des petits pas n'est pas à la hauteur des enjeux. En est-on sorti? Je ne crois pas. Je le cite, comment affronter sérieusement les désordres de la planète si l'on s'évertue à réanimer un modèle économique qui en est la cause? Et ça, c'est, je pense, la question fondamentale. Et de plus en plus de voix, y compris celle du Financial Times, il y a quelques jours, à sa une, capitalisme, le moment du reset, il faut tout repenser. La une de l'économiste...
C'est pas le capitalisme, c'est le productivisme.
Bon, en fait,
le bilan est pire dans les pays communistes. Non, donc c'est le capitalisme.
Le titre.
Le FT l'a dit, donc c'est utile qu'il l'ait dit.
Le titre du FT, je le cite, c'était le capitalisme. Ouais. Et l'autre bible des milieux économiques mondiaux, l'économiste anglais, a consacré tout son dernier numéro à l'enjeu climatique, en déclinant sous maints aspects les problèmes soulevés. Voilà, donc on est devant ces deux interrogations. La politique des petits pas, est-ce qu'on en est sorti? Je ne crois pas. La question du changement de comportement économique, des économiques et sociaux, de consommation et de production dans ce pays et au-delà, bien entendu, en Europe ou ailleurs, reste posée. Nicolas Hulot avait l'honnêteté de dire qu'il n'avait pas la réponse à la question. Je ne suis pas sûr que, jusqu'à présent, Emmanuel Macron en ait énoncé une de réponse.
Ouais. Donc en clair, si je résume, c'est avec l'écologie qui avait été longtemps préemptée au profit d'une idéologie de gauche. Aujourd'hui, c'est devenu un mode de pensée transverse qui mobilise l'ensemble des forces politiques, qui mobilise aussi les forces économiques, qui mobilise les forces sociétales. Reste le débat abyssal, Plantu et Hubert Védrine, en effet, entre en rester à cette politique des petits pas, comme le dit à l'instant Gérard Courtois, ou remettre en cause un système fondamental. Et généralement, ça débouche notamment sur une réflexion sur la notion de croissance.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait appris quand on avait réalisé un petit livre de dessin qui s'appelle « Ça chauffe pour la planète » chez Gallimard. On l'avait fait avec Yann-Arthus Bertrand, qui était venu dans mon bureau au journal Le Monde pour réfléchir ensemble avec comment on va utiliser des dessins. D'ailleurs, je rends hommage au dessinateur de Charlie Hebdo qui, dans les années 60 et 70, déjà nous avertissait. Je me souviens que même Reiser avait même, le dessinateur Reiser avait même sur son toit installé des capteurs solaires que l'EDF venait défaire parce que c'était interdit à l'époque. Donc, ils étaient très en avance. Et quand on a fait ce bouquin avec Yann-Arthus Bertrand, je l'ai vu pleurer dans mon bureau. Et ça c'était pas du cinéma, parce que il disait, justement, pour reprendre les termes sur le capitalisme, il disait, ben voilà, le capitalisme nous a emmené droit dans le mur, et on n'arrivera pas à faire convaincre les hommes politiques de prendre les décisions qu'il faut prendre, car il y aura des mouvements sociaux qui vont exploser la planète. Et c'était avant les Gilets jaunes, pour nous en France, c'était avant les Gilets jaunes qui réclamaient qu'on ne taxe pas le pétrole, l'essence ou le diesel. Et donc, je me suis rendu compte que il disait quelque chose, tous ces gens-là, avant tout le monde.
Hubert Védrine, est-ce qu'il est plus opportun d'un point de vue politique de dire qu'on ne fait pas assez ou aussi de mettre en valeur ce qui est fait déjà?
Il faut faire les deux, mais je ne comprends pas la discussion sur les petits pas. Quelle est la révolution que recommande Nicolas Hulot, que j'aime bien par ailleurs? Il a une solution pour que les Indiens et les Chinois sortent du charbon demain matin? La contribution de la France, enfin la responsabilité.
Il y a la question du rythme politique, de la vitesse politique. Bien sûr,
mais par exemple, il est contre le fait qu'on cherche du pétrole en Guyane.
C'est peanuts par rapport au mouvement général planétaire.
Il faut le dire quelque part.
Il faut que les gens arrêtent d'avoir besoin d'essence à ce moment-là. Donc ils ont une solution de remplacement. Il faut que les gars dans le Limousin, ils aient un véhicule pour aller à la préfecture faire des formalités. Donc c'est pas la peine de s'en prendre aux politiques, aux responsables. C'était mon point de désaccord dans la discussion. C'est pas de la faute des politiques. Les politiques dans les gentils pays européens qui voudraient mieux faire, ils ont pas de marge. Ils n'ont pas les solutions technologiques pour le moment. Mais la révolution de l'écologisation a démarré partout. Et notre discussion est un peu décalée par rapport à ça. C'est beaucoup plus avancé que ça. Sauf que, par exemple, aujourd'hui, on fait des cimenteries qui recyclent à 99%. Toutes les semaines, il y a un chercheur génial quelque part qui trouve une molécule qui est moins pire qu'une autre. C'est pas de notre faute spécialement. Je le redis, je suis pas obsédé, mais grâce au nucléaire, on est les moins émetteurs de CO2 en Europe. Par contre, en matière d'agro-industrie, là, on a une responsabilité pour faire évoluer le système. Donc, il n'y a pas d'autre solution que progressive. Il n'y aura pas un dictateur mondial qui va gouverner l'ensemble de l'humanité et au prix de millions de morts parce que les gens vont résister, va imposer une révolution technologique qui n'est pas prête. En revanche, je le redis, le jour où on arrive à tout faire fonctionner avec l'énergie solaire, il faut la capter, il faut la garder, il faut des batteries. À ce moment-là, toutes les grandes entreprises qui veulent que ça marche vont entrer dans une croissance dont le contenu va être modifié, y compris le PIB qu'il faut modifier, parce que c'est un instrument de mesure extrêmement frustre. Donc c'est pas la peine de dire des trucs grandiloquents. Et le vrai problème, c'est que on n'a pas les moyens, nous, de convaincre les Chinois, les Indiens, les Africains, enfin, le monde entier, en fait, quasiment nous, sauf quelques gentils petits pays européens boy scouts. On n'a pas les moyens, sauf si on trouve des solutions technologiques formidables qui offrent des options. Mais on ne va pas convaincre les Chinois d'arrêter de croître.
C'est pas sûr, parce que
je dis pas qu'il n'y a pas de mouvement chez eux.
Les Chinois, quand on parlait d'eux et qu'on montrait les nuages de pollution sur Pékin, ils ont dû mal le vivre. Et je pense que ils ont fait une révolution chez eux sur l'écologie, c'est peut-être à cause de notre regard sur...
Non, c'est pas notre regard, c'est le fait que les Chinois avaient du mal à respirer dans les rues. Bon, donc faut pas exagérer notre influence. Mais le vrai levier, le vrai décalage, c'est ça. C'est à peu près les trois quarts du monde ne sont pas sur cette ligne. Il faut les convaincre sans prétention, sans réingérence et compagnie. Ça passe par des percées technologiques qu'il faut accélérer partout.
Il y a l'échelle mondiale, il y a l'échelle européenne également. Dominique Schnapper, certes, on ne souhaite pas, on ne peut pas attendre un dictateur vert, comme le disait à l'instant Hubert Védrine, mais songer à une harmonisation européenne. Par exemple, prenons un exemple parmi d'autres, sur la question centrale du charbon. On sait que se profile à l'horizon 2022 la fin du charbon en France. On sait que la politique allemande est éminemment différente en la matière. Est-ce que c'est ça le bon cadre de réflexion, niveau de réflexion ?
Non, c'est très difficile parce qu'il y a à la fois des problèmes techniques et il y a des problèmes politiques. Nous savons qu'un des instruments des politiques publiques, c'est la taxation. Et que dans l'ordre de l'écologie ou du progrès, du progrès vers une verdisation, pour le dire globalement, la meilleure taxe, c'est la taxe carbone. Vous voyez le résultat quand on commence à introduire un tout petit peu de taxe carbone. Et les projets dans ce sens-là étaient très modestes.
Ça veut dire que la fiscalité écologique n'est pas le bon levier.
Ça peut pas se faire du jour au lendemain.
Mais ça peut pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a des résistances, il y a des groupes d'intérêts,
il y a les gens.
Alors, il y a l'agriculture bio. L'agriculture bio demande 30% de terres en plus. Pour avoir 30% de terres en plus, ça veut dire qu'on va déforester. Déforester, nous savons que la déforestation est un des grands dangers écologiques. Donc c'est très compliqué parce que c'est tout le système de production économique tel qu'il existe aujourd'hui à reprendre. Et même, d'une part, il y a ce que dit Hubert Védrine, c'est-à-dire la part relative de l'action européenne et française sur la part mondiale, mais même à l'intérieur du cadre français ou européen, c'est une très grosse difficulté. Et en Allemagne, on veut supprimer le nucléaire. Or, c'est le nucléaire qui ne fait pas de CO2. Donc, il faudrait réfléchir.
Ils vont relancer le CO2 en Allemagne.
Les décisions de Mme Merkel aboutissent à augmenter le CO2.
Ils parlent maintenant de sortir du charbon. Ils auraient mieux fait de se poser la question
avant. Mais qui génère des déchets qu'on ne sait pas gérer. Donc, il y a la problématique de la cohérence de ces actions.
Monsieur Hulot a dit on fait que des petits pas, on ne peut pas faire autrement que des petits pas, et c'est très difficile parce que c'est toute l'organisation sociale et des intérêts de groupes sociaux qui dans la démocratie défendent leurs intérêts éventuellement violemment et qui rendent la politique elle-même difficile. Et je crois qu'il faut vraiment distinguer ce que l'on sait rationnellement grâce au GIEC et ensuite ce qui est possible politiquement. D'ailleurs les gens du GIEC ne disent pas ce qu'il faut faire, ils disent si vous faites ceci voilà les résultats. Bon, c'est le rôle parfait des scientifiques.
Ils disent toujours ne pas faire de politique, mais leur préconisation.
Il y a des conséquences politiques, c'est évident.
Il y a la problématique du temps en politique. D'ailleurs, les rapports du GIEC sont souvent sur plusieurs scénarios, d'ailleurs temporels. Ce que dit quelqu'un comme Corinne Lepage, par exemple, qui a été ministre de l'Environnement, c'est que le problème, c'est que la dégradation est bien plus rapide que l'effort législatif.
Oui, bien entendu, mais pendant que je vous entends parler, il y a le journal Le Monde qui risque d'être acheté par un Tchèque qui possède des mines de charbon. Alors, nous, on a des problèmes à régler déjà éditorialement et écologiquement.
Gérard Courtois, qui vient du Monde lui aussi, qui est parti au bon moment pour échapper justement à la pollution au charbon.
C'est au moment qu'il fallait. Je suis d'accord avec ce que dit Hubert Védrine sur le fait que ça ne peut être qu'une action progressive, qu'il n'y aura pas de grand soir de l'écologie, que c'est une utopie.
Elle peut être progressive et intense, hein.
Voilà. Mais alors, la question que je voulais vous renvoyer, c'est la progressivité, très bien, mais à quel rythme ? Il y a une question de rythme. Et quand Hulot dit petit pas ou d'autres disent ça n'avance pas, la question est, certes, beaucoup dépend des avancées technologiques, des solutions technologiques trouvées alternatives à ce qui produit le réchauffement climatique.
Et il y a eu beaucoup de
progrès, OK. Les
voitures, par
exemple. Mais beaucoup dépend aussi, me semble-t-il, de la capacité des politiques à, ce qu'a dit Édouard Philippe, accélérer le mouvement. Parce qu'on voit bien que tous les rapports du GIEC démontrent que plus on avance, plus la question devient difficile à régler. Donc voilà, il y a une question d'engagement politique. Je parle de la France, mais on pourrait...
Je vais vous donner un exemple par rapport à votre question. Embêter les gens qui, dans plein de campagnes françaises, donc une vieille bagnole avec du diesel d'avant, pas d'aujourd'hui, pour aller faire les formalités, parce qu'en plus les services publics ont fermé, bon, tout ça. C'était absurde, ça. Ils sont pour rien, c'est pas de leur faute. Si on leur dit en plus qu'il faut virer leur vieille chaudière, c'est catastrophique. En revanche, quand on prend la question de l'isolation thermique des bâtiments, qui est très importante à tout point de vue, là c'est évident qu'il faut aller 10 fois plus vite. Donc moins vite, ne pas embêter les gens qui deviennent gilets jaunes après et compagnie, mais aller beaucoup plus vite. Donc il faut trier, c'est là. Il a raison, Gérard Courtois, ça va être la question du rythme, en fait, qui va se poser maintenant.
Et les décisions, parce que certaines qui apparaissent comme...
La question du temps et peut-être aussi la question de la cohérence, de l'incohérence, du coup, mécaniquement.
Des décisions qui sont prises.
Il y a par exemple un effort qui peut être, je donne un exemple pour être concret, qui peut être promu pour améliorer la biodiversité, mais si dans le même temps, on lance un grand projet d'immobilier, on voit bien en quoi les politiques publiques sont parfois contradictoires. Le temps et la cohérence, Gérard Courtois ?
De toute façon, le temps de l'écologie, c'est quand même du temps long, et le temps politique, c'est du temps très court. C'est une banalité. Et non, je voulais juste revenir sur l'affaire de la taxe carbone, parce qu'elle est quand même très, très emblématique des contradictions devant lesquelles un gouvernement, un pouvoir politique est confronté. C'est vrai que telle qu'elle était mise en œuvre, et notamment lors de l'augmentation qui avait été décidée à l'automne dernier, qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, qui était à l'origine de ce mouvement, elle était doublement fautive ou absurde. Un, parce qu'elle pénalisait effectivement les gens les plus modestes, et deux, parce qu'elle n'était pas consacrée intégralement, loin de là, à une politique écologique, qu'elle servait, au fond, c'est une variable d'ajustement des comptes publics et du budget. Bien. Mais c'est la réaction du gouvernement la semaine passée devant le rapport de la Cour des comptes qui remet sur la table la nécessité de réfléchir à une fiscalité écologique. Démarche que tout le monde, depuis des années, considérait de manière assez consensuelle comme une bonne démarche. La Cour des comptes remet ça sur la table en disant on a bien regardé, il y a effectivement c'était mal goupillé, il faudrait repenser les choses, il faudrait des compensations pour les plus modestes, il faudrait ne pas exonérer les secteurs industriels, mais et ils vont assez loin dans le détail de leurs propositions pour faire en sorte que ce soit pas un choc brutal sur le transport aérien, le transport maritime, le transport routier, le BTP, etc. Tous secteurs qui bénéficient d'avantages fiscaux dans ce domaine. Donc, la Cour des comptes remet ce sujet sur la table en disant il faudrait quand même peut-être ne pas l'oublier. Et la tétanie immédiate du gouvernement est spectaculaire. C'est
pas question de toucher à la taxe.
On bouge plus là-dessus. Non, on remet pas ça sur la table.
Vous qui avez été en fonction nombreuses fois dans votre vie, est-ce que les politiques n'ont pas en effet le défaut de fixer des échéances temporelles suffisamment lointaines pour qu'elles ne les concernent jamais? Par exemple, sur l'affaire des voitures que vous citiez à l'instant, le gouvernement actuel a inscrit dans la loi que à l'horizon 2040, 100% des véhicules particuliers devront alors être zéro émission. Est-ce qu'on ne touche pas là à quelque chose de fondamental?
Vous voulez qu'ils disent 2021?
Je ne sais pas, ils disent là 2040.
Mais c'est les démocraties modernes, il y a des élections tout le temps, les processus technologiques sont rarement à l'intérieur de ça. Même quand on parle des réformes en général, je ne parle pas écologisation, mais réformes. Le chancelier Schröder, qui a fait des choses remarquables, qui ont remis l'Allemagne au premier plan, disait le temps pour qu'une réforme de se produire, ça perturbe plein de gens, de donner des effets positifs, c'est toujours plus long qu'un mandat électoral. Bon, c'est pas de la faute des politiques, ils se débattent dans cette nasse, ils font le moins mal possible par rapport à ça. C'est pas le sujet principal, encore une fois. Il faut convaincre les fameuses vraies gens, sont majoritaires, d'entrer dans un processus à condition de leur donner des options, des solutions de remplacement. Ségolène Royal a raison quand elle dit depuis des années, il ne faut pas que ce soit punitif. Il n'y a pas que punir les gens. Ce n'est pas de leur faute s'ils se servent de charbon, de vieilles bagnoles, de vieilles chaudières, de machin. Il faut offrir des évolutions, des possibilités. Maintenant, on a le choix. Là, la fiscalité peut être utile. Elle peut orienter vers ce qui est plus intelligent. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la rénovation thermique.
Alors, néanmoins, pour aller dans le sens de ce que j'indiquais à l'instant dans votre petit livre « Plantu, ça chauffe pour la planète » chez Gallimard, vous mettez en exergue ce dessin du dessinateur belge Kroll. On est en 2050, un couple est dans son salon et regarde la télévision. La femme vient voir son mari, lui dit « Quoi de neuf à la télé, chérie ?» On parle de sortir du nucléaire et d'interdire le glyphosate. Et on est en 2050.
Mais c'est deux mauvais exemples, ça.
Pourquoi c'est deux mauvais exemples?
Parce que la sortie prématurée du nucléaire, tant qu'on n'a pas du solaire compétitif, relance le CO2. Bien sûr, il y a les déchets et compagnie. Mais ça relance le CO2. Les écologistes politiques, idéologiques, fanatiques des 30 dernières années portent une responsabilité énorme là-dessus. Ils ont fait perdre un temps fou. Donc l'Allemagne en arrive à dire maintenant qu'il faut sortir du charbon. Quant au glyphosate, même dans le monde, qui est très très engagé sur ces points, il y a eu plein d'articles sérieux disant il semblerait finalement que ce soit le moins toxique des produits qu'on utilise. Bon, on est quand même, faut faire attention à la focalisation hystérique sur deux trois trucs, alors qu'il faut s'inscrire dans un processus de 20 à 30 ans.
Il y a un scoop, Hubert Védrine, lit Le Monde. Je le dis à Gérard Courtois, parce que ça va nous rassurer.
Voilà, rassuré. Dernier exemple, parce qu'il est parlant, il surgit régulièrement dans le débat public. Vous parliez de fiscalité écologique qui, en effet, passe mal dès lors qu'il touche à la voiture et à la voiture du quotidien. Autre exemple de fiscalité écologique, lorsqu'elle concerne le transport aérien. On le sait, Dominique Schnapper, le gouvernement a rejeté l'idée de taxer le kérosène à l'échelle nationale, avec l'argument qu'il ne faut pas désavantager les compagnies aériennes françaises. Il milite pour une taxation à l'échelle européenne. On voit bien que c'est ça aujourd'hui le vrai échelon, le véritable échelon.
Ben oui, parce que ça ne dépend pas. C'est un problème qui dépasse les politiques nationales, puisque par définition, les compagnies aériennes sont en concurrence avec les compagnies aériennes du monde tout entier. Et donc c'est difficile. Mais ça ne fait qu'illustrer le fait que adopter une fiscalité écologique consiste à imposer certains et à moins imposer d'autres, et que dans les démocraties, c'est extrêmement difficile parce que nous sommes démocratiques, de faire ce genre de transfert sans provoquer des réactions fortes. Et à plusieurs reprises, les gouvernements ayant proposé des décisions qui étaient raisonnables du point de vue écologique ont dû les retirer parce qu'elles ne passaient pas dans la société. Et c'est pour ça que ça ne peut être que progressif, pour changer progressivement les comportements. On a dit on pourrait supprimer les lignes intérieures quand il y a un train qui permet d'aller Paris-Marseille
dans un temps équivalent.
Bon, ça suppose beaucoup de transformations, ce qui paraît raisonnable abstraitement, mais ça suppose beaucoup de transformations dans les comportements et c'est difficile à faire accepter.
Allez, on passe à la deuxième partie de notre émission. L'autoproclamé acte 2 du quinquennat est donc censé se placer sous le signe du développement durable. Il devrait aussi, dans son ADN complexe, contenir un volet migratoire. Le chef de l'État a en effet remis cette semaine le mot immigration au cœur du débat. Un débat, mais quelles circonstances ?
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
La scène se passe lundi dernier dans les jardins du ministère des Relations avec le Parlement. Le président de la République s'adresse en cette rentrée aux élus de sa majorité lorsque surgit un thème auquel personne ne s'attendait, l'immigration. Là où les ténors de la majorité avaient peaufiné tous leurs éléments de langage sur les retraites, l'écologie, la bioéthique, a surgi ce discours inattendu sur l'importance, je cite le président, de regarder en face la question migratoire avec une lecture sociologique elle aussi inédite chez le chef de l'État et cet argument de classe. Je le cite, la question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas. Les bourgeois n'ont pas de problème avec cela, ils ne la croisent pas, l'immigration. Les classes populaires, elles, vivent avec. Et le chef de l'État d'inviter à durcir les règles du droit d'asile en dénonçant les abus, d'insister sur la sécurité et la lutte contre les communautarismes, d'expliquer qu'il ne voulait surtout pas abandonner ses sujets régaliens à l'extrême droite, estimant n'avoir qu'un seul adversaire sur le terrain à quelques mois des municipales, le parti de Marine Le Pen. Pen
Lausanne, lâchant enfin cette phrase choc, en prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste. Résultat, comme un malaise de rentrée à l'intérieur même de la majorité, une quinzaine de députés LREM appelant dès le lendemain à une gestion humaine de ces questions, dans une tribune de presse, appelant à éviter une hystérisation inversement proportionnelle à la réalité migratoire, réclamant que l'on parle davantage d'intégration. Pendant ce temps, la presse de droite s'étonnait elle aussi de ce nouveau credo ou créneau présidentiel. L'éditorialiste du Figaro rappelant jeudi le précédent de l'identité nationale de Nicolas Sarkozy, qui avait, je cite, « électrisé le pays, mais débouché sur une impasse ». En attendant, les termes du débat étaient posés, on les avait abondamment entendus cette semaine, sans que ne soient vraiment exprimées les circonstances qui les faisaient surgir.
Hier soir, Emmanuel Macron a durci le ton.
Regardez l'immigration en face, c'est ce que veut faire Emmanuel Macron.
Le président a fait le choix de la fermeté. Il refuse, dit-il, l'embourgeoisement de son parti.
Le chef de l'État l'a rappelé hier soir devant les parlementaires de la majorité.
Et il a eu des mots très offensifs, très à droite aussi.
Il faut regarder le sujet en face.
Il fallait le regarder en face et qu'il fallait le traiter.
On regarde le sujet en face.
Il veut oser regarder le problème en face et le traiter.
On doit absolument affronter ce sujet.
Voilà, pot pourri préparé par nos confrères de France 5 à partir des déclarations des différents ministres ou porte-parole de la Macronie qui ont été envoyés cette semaine sur les plateaux de Télé ou de Radio pour relayer quoi, ce nouveau créneau, credo présidentiel plantu sur l'immigration. Il vous a surpris ?
Moi, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir parler de tous ces sujets sans se traiter de nom d'oiseau. Je trouve qu'il n'y a pas d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Et c'est marrant parce que, en tant que caricaturiste, nous, on est amené, évidemment, on a fait des bouquins, d'ailleurs, sur l'immigration, ils circulent un peu partout en Europe. Et à la fois, je me souviens que quand j'avais demandé à mon équipe à Cartooning for Peace de rassembler des dessins sur les migrants, j'avais dit, mais je voudrais aussi avoir des dessins qui racontent la frustration des gens de Calais. Par exemple, il y a des gens à Calais, ils vivent ça tous les jours, comme dit Macron, il y a ceux qui se frottent au sujet, puis il y a ceux qui regardent de loin. Et donc, j'ai pas obtenu de dessin. Je le dis sur la chaîne de France Culture, si vous voyez des dessins qui racontent la souffrance des gens de Calais, nous, ça nous intéresse parce qu'on a envie de raconter ça aussi.
Gérard Courtois, comment vous expliquez que cette thématique-là surgisse en cette rentrée dans le débat public, dans la parole présidentielle ?
J'ai envie de dire, tel que Emmanuel Macron a formulé le sujet lundi dernier devant sa majorité, la majorité de ses parlementaires, je trouve qu'à la fois c'est logique et légitime de la part d'un président de la République, et que tel qu'il l'a formulé, c'est assez simpliste et assez dangereux. C'est logique pour des raisons sociétales. Le Monde a publié cette semaine la grande enquête fracture sociale que fait Ipsos chaque année pour Le Monde, pour la Fondation Jean Jaurès et cette année pour l'Institut Montaigne. Les chiffres sont à la fois constants, en évolution, progression, et un peu terrible. On a 2 Français sur 3 qui disent on se sent plus chez nous. On a 2 Français sur 3 qui disent les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer dans la société française.
Peut-être donc, pour préciser, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que l'immigration n'apparaît qu'au 4e rang des préoccupations des Français. En revanche, en effet, le sujet de l'intégration prédomine.
Absolument. Et voilà, donc il y a... Le président de la République est fondé, a raison de dire, il ne faut pas détourner le regard. Il y a cette inquiétude, il y a ce que Laurent Bouvet appelle cette insécurité culturelle, et Macron a eu, alors ça n'était pas sur la question de l'immigration, mais sur l'ensemble de sa politique, il a dit quelque chose, moi, qui m'a frappé, il a dit, la perception est une réalité en politique, et il faut en tenir compte, il faut y répondre. C'est important. Parce que la perception des phénomènes migratoires et de la réalité de l'immigration en France est aussi importante que les réalités effectives.
Je vous vois hausser les sourcils, Dominique Schnapper. C'est comme pour la météo, c'est le ressenti. Ça vous gêne justement
cette subjective,
cette appréhension de ces sujets-là ?
Pas du tout. C'est simplement une réflexion de sociologue, puisque c'est la première formule qu'on explique aux étudiants de sociologie, c'est qu'il y a les faits objectifs et il y a la manière dont les faits objectifs sont compris. Voilà. Et je suis très heureuse de voir que Gérard Courtois cite Macron sociologue. Mais je le laisse finir pour parler
ensuite. Il y a cette logique sociale ou sociétale. Il y a la logique politique. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron a gagné en 2017 en écartant la droite et la gauche, en les débordant et en organisant, en structurant un débat entre les progressistes et les nationalistes. Et puis, il a continué aux européennes. Et à l'évidence, il entend continuer en 2022, si il est candidat en 2022. En tout cas, il s'y prépare manifestement. Donc, il y a cette logique sociale, il y a cette logique politique. Bien. Et il a été incroyablement cash sur ce sujet. Vous n'avez qu'un seul opposant sur le terrain, le Rassemblement. D'ailleurs, il a dit le Front National. Bon ben, le Rassemblement National. Et il faut confirmer cette opposition, car ce sont les Français qui l'ont choisi. Donc, voilà, sa logique politique, elle n'est pas nouvelle. Il continue sur sa lancée. Pour l'instant, ça lui a plutôt réussi.
Pourquoi maintenant, avec ce débat prévu fin septembre, alors qu'il y a d'autres textes et dossiers majeurs en cette rentrée, on parle des retraites, on parle de la bioéthique, pourquoi là, maintenant, à ce moment politique-là ?
C'est une vraie question. C'est une vraie question parce que c'est un débat sans vote, et c'est un débat, le débat parlementaire à venir, sans vote, bon, et par ailleurs, où il semble que le gouvernement n'ait pas dans ses poches des mesures de nature législative ou réglementaire nouvelles à mettre sur la table pour répondre à l'inquiétude qui est mise en avant ou pointée.
Sachant qu'il y a déjà eu, en effet, de l'année dernière, une loi sur le droit d'asile.
Donc c'est une vraie question. Et pour moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de simpliste et de dangereux. C'est que présenter ce débat, cette question migratoire, de l'immigration, comme de manière aussi, pardon, mais aussi rustique que d'une opposition entre les bourgeois et les classes populaires, franchement, il y a d'autres enjeux de la question, et Emmanuel Macron, évidemment, le sait parfaitement, des enjeux d'intégration, on l'a dit, des enjeux d'harmonisation européenne, très laborieuse, ou de coordination européenne, très laborieuse, des problèmes de co-développement avec les pays d'origine. Pour moi, la responsabilité du président de la République devrait être de faire une pédagogie efficace et offensive sur ces sujets-là. Précisément pour ne pas s'en tenir à des petites phrases chocs qui cristallisent quoi ? Qui cristallisent quelque chose qui ressemble de près ou de loin, peu ou prou, soit au vocabulaire, ça n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, mais ça a été le cas de sa porte-parole, Sibeth Ndiaye, quand elle a dit qu'il fallait s'armer contre les menaces migratoires futures. Non, ce sont des mots qui, quand même, sont lourds de sens. Mais sinon, le vocabulaire, du moins, une forme de rhétorique ou de d'exaspération des peurs sur ce sujet-là. Et sur ce terrain-là, c'est le Rassemblement National qui est toujours gagnant, parce que ça fait 40 ans qu'il dit la même chose.
Le thème de préférer l'original à la copie. Hubert Védrine, est-ce que vous comprenez ces députés de l'aile gauche de La République En Marche lorsqu'ils écrivent dans leur tribune de presse cette semaine qu'ils aimeraient qu'on évite une hystérisation de ce sujet, hystérisation qui serait inversement proportionnelle à la réalité migratoire ?
Je ne vois pas où est l'hystérie.
Oui.
Il dit, c'est l'homme qui dit qu'il faut rester humain, c'est ça ? Je crois. Ça n'a rien d'humain d'alimenter le trafic des passeurs en Afrique. Hein. Ça n'a rien d'intelligent et de généreux de mépriser la demande des électorats populaires depuis des années et des années. Je pense même que c'est une des raisons principales de l'effondrement de la gauche, en fait. Ce déni. Et moi, je trouve le président très courageux. Alors, bien sûr, il a tapé fort, mais je pense qu'il y a un tel déni. Il y a un tel aveuglement. Il y a tellement de gens qui noient le poisson. Qui traite la question que de façon morale, pour pas dire moralisatrice. Alors que s'il y avait, disons, 3 millions de demandeurs d'asile et 20 millions de candidats à l'immigration, en Europe, on dirait, venez, il n'y a aucun problème. Il y a une gigantesque question de nombre. C'est tellement naïf de se dire, il y a moins de demandes que l'an dernier. Bon, l'accumulation de tout ça fait que le président, je vois bien, il est dans une phase, c'est évident sur la diplomatie, il est en train de reprendre le contrôle. Donc il a voulu prendre le sujet à bras-le-corps.
Vous voulez dire, par exemple, que lorsqu'il dit, c'est l'une de ses phrases, en prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste, bien il sûr. Est quoi, védrinien en diable ?
Non, c'est pas parce que j'ai dit ça, non, il n'y a pas de rapport entre les deux, mais là, vous me posez la question aujourd'hui, j'approuve ça, je trouve ça courageux de dire ça, je vois bien quelle est la partie de l'opinion, des gens, d'associations, d'ONG, de médias qui prend un rebours, mais je pense que leur aveuglement là-dessus,
plus l'aveuglement sur l'islamisme, et quant à un autre sujet, bon, mais qui se recoupe en partie, nous conduit dans une espèce d'impasse, et que ça creuse le fossé entre les élites dirigeantes et les gens, et on le voit dans beaucoup de pays. En plus, c'est pas un problème français, en fait. C'est un problème mondial. Regardez le débat au Canada, en Australie, aux États-Unis, à cause ou malgré Trump, comme on veut.
Néanmoins, là, c'est vrai qu'en cette rentrée, la majorité met en avant une spécificité française, puisque laquelle? Sur le droit d'asile, il y aurait un nombre record de demandes qui concernerait la France au moment où ce nombre de demandes baisserait pour le reste des pays européens.
Non, c'est pas comme ça, c'est qu'ils sont déboutés. Dans toute l'Afrique, il y a des gens qui savent très bien dans quel pays il faut rentrer, par où ils passaient les ONG, les avocats, les ceci, les cela, pour réussir à entrer au titre du droit d'asile en dévoyant le droit d'asile. Tous ceux qui veulent préserver et sanctuariser le droit d'asile vrai pour les gens en danger, persécutés, tel que c'est organisé dans les textes, ne devraient pas être favorables à ça. Un détournement massif. C'est un mode d'immigration illégale. Comme ils sont refusés par les OFPRA de tous les pays d'Europe, ils arrivent en France. Où il y a une interprétation jusqu'à maintenant beaucoup plus, on va dire, humaniste ou laxiste, selon les cas.
Il faut s'attendre à quoi dans les mois qui viennent en termes de politique publique, puisqu'il y a eu déjà l'an dernier ce projet de loi sur l'asile. Ça veut
on va aller inévitablement partout, mais dans tous les pays dont je vous ai parlé, regardez en Afrique du Sud, le débat est beaucoup plus violent en Afrique du Sud. Les Sud-Africains se disent envahis par tout le sud de l'Afrique, qui viennent là parce qu'il y a des jobs, etc. Bon, les propos qu'on emploie en Afrique du Sud sont beaucoup plus violents que Marine Le Pen. À propos de ça, à propos de l'invasion par les gens du Zimbabwe, du Nigeria, je ne sais pas quoi. Je pense qu'on va y nécessairement, et c'est plutôt positif, vers une maîtrise renforcée des flux migratoires pour qu'il y ait des courants normaux, utiles, des migrations légales. Je pense qu'on ira inévitablement, mais pas au niveau français, au niveau d'un Schengen refondé, une discussion sur des quotas par métier. Voilà les domaines dans lesquels il y a des jobs, on a besoin des gens, il faut qu'ils viennent, etc. En associant de gré ou de force, on les secoue un peu, les pays de départ et de transit. D'ailleurs, un pays intermédiaire comme le Maroc résonne déjà comme ça pour lui, par rapport aux pays d'Afrique de l'Ouest. Et par ailleurs, il y aura un droit d'asile, c'est un objectif important, pas durci, contrairement à ce que disent certains, pas durci, mais ramené à sa définition rigoureuse. C'est comme ça qu'il faut le sauver. Sinon, à un moment donné, les peuples furax vont tout balayer. L'immigration nécessaire, bon. Donc c'est un mouvement mondial qui se produira entre les zones de départ et les zones d'arrivée. La France n'est qu'un élément parmi d'autres.
Dominique Schnapper, pour vous, le vrai sujet aujourd'hui, c'est remettre au cœur du débat public ce débat autour de l'immigration, ou c'est de reposer, j'allais dire presque de réinventer, le débat autour de l'intégration ou de l'assimilation?
C'est un peu le même. C'est un peu le même.
Est-ce que c'est le même sujet?
Oui, c'est le même sujet. Alors, je pense qu'en effet, on s'est assez plaint pendant des décennies du fait qu'on n'avait jamais vraiment discuté de problèmes d'immigration, que la politique d'immigration s'était faite par les bureaux et qu'il n'y avait jamais eu le véritable débat, pour ne pas apprécier le fait qu'il est courageux de l'aborder et d'essayer de l'aborder d'une manière sereine. Cela dit, c'est risqué. On est très sensible au fait que c'est risqué, parce qu'il y a toujours sur ces sujets le risque de la démagogie moralisatrice, ne tenant pas compte des réalités telles qu'elles sont, et du débat l'immigration chance ou menace, alors que bien évidemment c'est à long terme une chance, à court terme une épreuve. Il y a une très célèbre enquête de Norbert Elias qui montre que dans une banlieue londonienne, l'arrivée de tout un groupe de personnes absolument semblables à ceux qui étaient installés, qui étaient aussi des ouvriers blancs du même âge, a provoqué énormément de difficultés sociales entre le groupe des installés et le groupe des nouveaux venus. Donc les nouveaux venus constituent une épreuve pour les installés, et l'immigration est à court terme une épreuve. Et il est juste de penser que... il est optimiste de penser qu'on peut avoir sur ce sujet un débat rationnel, et on peut en tout cas l'espérer. Le fait que ce soit pris dans une logique politique me paraît pas un argument contre le fait du débat, parce que c'est pas le président de la République rappelle, mais enfin il a raison, que c'est pas lui qui a mis Madame Le Pen comme son adversaire. C'est l'élection, c'est les Français qui font de Madame Le Pen de fait son ex-femme. Alors là-dessus, on peut espérer que y ait ce débat rationnel sur le sujet et que à cette occasion, on puisse rappeler les principes fondamentaux, qui est que c'est pas le nombre des immigrés, c'est moins leur capacité, que la capacité d'intégration de la société d'accueil. Il y a eu de grandes périodes d'immigration dans lesquelles il y a eu le minimum, disons, le minimum de débats. Et puis rappeler les principes fondamentaux, qui est que toutes les diversités sont non seulement possibles mais souhaitables, parce que l'unité sociale c'est totalitaire et la démocratie c'est la multiplicité des identités, mais, et là il faut souligner deux fois, à condition que toutes ces diversités ne soient pas contradictoires avec les grands principes qui organisent la société démocratique, c'est-à-dire la séparation du politique et du religieux, par exemple, ou l'égalité de tous les êtres humains, en particulier des hommes et des femmes. Il faut rappeler que là, la laïcité, c'est la séparation du politique et religieux, c'est-à-dire en France la laïcité, c'est un principe fondateur, et il faut le processus de l'intégration progressive des populations d'origine étrangère ne peut être réussi dans la mesure où la vie sociale est réussie, c'est-à-dire avec ses tensions et ses difficultés, que si un certain nombre de si nous tenons bon sur un certain nombre de principes qui sont au fondement de l'ordre démocratique.
Où l'on voit bien, en tout cas, Gérard Courtois, en cette rentrée politique 2019, que les sujets d'immigration et d'intégration vont se mêler étroitement dans le débat public. Regardons juste, par exemple, et à titre d'exemple, les unes des hebdomadaires cette semaine, Le Point, qui publie par exemple, la grande enquête de Jérôme Fourquet, le directeur de l'IFOP, ce que pensent les musulmans de France. C'est une enquête régulière où l'on apprend que 68% des musulmans interrogés sont favorables au droit de porter le voile au collège et au lycée. 49% des moins de 25 ans souhaitent que la laïcité s'adapte à l'islam. On voit bien la porosité qu'il va y avoir entre les deux thèmes. Est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est malsain pour le débat public ?
Non, ce qui est assez évident dans la prise de parole, l'intervention d'Emmanuel Macron lundi dernier, c'est que il fait l'hypothèse que ces sujets-là seront centraux dans l'élection présidentielle à venir. Point 1. Point 2, il est manifeste que ça lui permet de mettre dans l'agenda du débat public d'autres thèmes que ceux que les problèmes sociaux ou les réformes sociales qui menacent de coaguler plein d'oppositions, à commencer par les retraites.
En clair, on va plus parler droit d'asile et AME, aide médicale d'urgence, non, que retraite et
il me semble, moi je suis pas dans sa tête, mais il me semble que il y a, au-delà de tous les arguments, toutes les raisons qu'on a évoquées pour qu'il prenne cette position, et encore une fois, moi je la trouve quand même assez rustique, beaucoup trop rustique pour ne pas être dangereuse, il est évident qu'il essaie de diversifier les thèmes de débat actuels pour que ça ne se polarise pas exclusivement sur la question des retraites, notamment. Je reviens d'un mot sur ce que j'appelle dangereux. Je veux dire, tous les responsables politiques qui sont intervenus sur cette question-là de manière trop, comment dire, lapidaire, et je trouve que son intervention de lundi était lapidaire et cette espèce de dichotomie simpliste, oui, entre bourgeois et classe populaire, tous les responsables politiques qui sont intervenus de cette manière ont en réalité nourri le Front National, légitimé d'une main peu ou prou son discours et ses obsessions.
Hubert Védrine.
On l'a vu. Je
suis pas d'accord du tout là-dessus.
On l'a vu avec Nicolas Sarkozy.
Je pense que c'est le déni.
Hubert Védrine et Dominique Schnapper.
C'est le déni qui nourrit le Front National. Et je pense qu'au-delà
le Parti Socialiste a vraiment souffert de ne pas vouloir parler de sécurité.
Je ne suis pas dans la tête du président non plus, mais je pense qu'au-delà du raisonnement un peu conjoncturel, politique électorale, il y a aussi l'observation que la gauche s'est largement torpillée en niant la question. Ou en la traitant mal, disons, parce qu'elle n'a pas que nié. Bon.
Donc il y a aussi un élément dans la durée. Comme de toute façon, ça va s'imposer dans la durée, dans le monde entier, et qu'il faut l'organiser, et qu'il faut faire sauter le verrou du déni, en fait. Là, vous dites c'est trop rustique, bien sûr, on peut ergoter sur le mot bourgeois, mais on voit bien ce que ça veut dire, en fait. Et après, va s'entamer un débat, par exemple, l'aide médicale d'urgence. C'est évident qu'il y a des abus. Alors, est-ce que c'est ce dont on a parlé? On ne sait pas. Alors, évidemment, plein de gens résistent en disant on ne peut pas arrêter de soigner des gens qui sont là. Bien sûr, on ne va pas arrêter de soigner des gens qui sont déjà là. Mais il faut en même temps arrêter la pompe. Parce que sinon, dans tous les gens qui veulent aller vers la Rome, on dit, si vous arrivez en France par tel ou tel processus, après, vous pouvez inscrire les enfants à l'école, vous n'êtes jamais renvoyés, vous avez droit à des opérations. Bon, il faut s'occuper humainement des gens qui sont là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer intégration et immigration. Bien sûr, il faut s'occuper mieux des gens à qui on a donné l'asile, en vrai. Les gens à qui qu'on ne peut pas garder au titre de l'asile, il faut les renvoyer chez eux, mais dans des conditions correctes, humaines, négociées. Les gens qui sont des immigrants légaux, il faut les intégrer mieux, ceux-là. Mais ça ne s'oppose pas. C'est même la même chose. La maîtrise des flux migratoires devrait permettre une meilleure intégration, peut-être même moins rustique.
Où l'on conseillera de relire les œuvres complètes de Dominique Schnapper sur le sujet, et notamment qu'est-ce que l'intégration, très rapidement, le dessin ou le mot de la fin en forme de dessin.
Oh, c'est parce que je trouve que, justement, quand on essaye de parler de l'immigration, on se donne des noms d'oiseaux. C'est pour ça que des fois, je fais des dessins un peu nuancés sur le métro aérien à Paris, avec des gens qui regardent ce qui se passe en bas du métro aérien. On est peut-être du côté de Stalingrad. Et puis, en fait, en bas du métro, il y a la mer Méditerranée, avec les migrants qui arrivent. Et les deux se regardent en se posant des questions. Ça, c'est le côté très doux. Et à la fois, le regard sur l'intégration plus dérangeant, qui vient de Shai Sharka, qui est un dessinateur israélien, et qui montre une Europe qui n'arrive pas à intégrer comme il le souhaiterait. Et finalement, la petite princesse Europe qui est enlevée par le taureau Jupiter, Zeus, finalement, cette petite princesse est voilée. Et donc, il pose la question, vue de l'étranger en Israël.
Voilà, un bon complément au livre de Dominique Schnapper. On mettra bien sûr vos dessins sur nos supports numériques. Merci beaucoup, Plantu. Merci, Hubert Védrine, Gérard Courtois, Dominique Schnapper, d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean-Reno qui l'a réalisé, à la technique aujourd'hui, Inès De Bruyne. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec les bonnes choses de Caroline Brouet. Quant à nous, bien sûr, on se retrouve de nouveau dans ce studio dimanche prochain, 11h. Nous serons avec Christine Ockren, Daniel Cohen, Monique Cantos-Perber et Thomas Gomard. Passez une excellente semaine à l'écoute de France Culture.